Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Dans un contexte mondial où les enjeux climatiques, économiques et sociaux se croisent de manière inextricable, l'Afrique se positionne non seulement comme un terrain de défi, mais surtout comme un vivier de solutions. Alors que le continent se trouve à un carrefour décisif de son développement, la Semaine de l'Afrique des solutions et durabilité s'impose comme une plateforme incontournable pour repenser le futur africain et du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
L'accord de Paris sur le climat se voit menacé par le retrait annoncé des États-Unis avec le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Ce qui constitue un défi majeur pour l'Afrique, un continent vulnérable aux effets du changement climatique. L'accord de Paris, qui repose sur un engagement des pays développés à mobiliser près de 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à faire face au changement climatique, avait vu les États-Unis, sous le magistère de Barack Obama, promettre une contribution significative à travers le Fonds vert pour le climat. Et pour en savoir plus, mesdames et messieurs, sur les conséquences de ce retrait américain sur l'Afrique, nous recevons dans cette émission de la durabilité Madame Fanta Camara, environnementaliste, négociatrice climat et présidente du Climate Linger Club, premier réseau de femmes africaines unies pour l'action climatique. Bonjour à vous, Madame Camara, et merci de répondre à nos questions.
Bonjour, M. Tonkara. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être reçu dans ce podcast de la durabilité afin de parler de ces sujets cruciaux. Donc, un plaisir, et j'espère bien que les réponses seront utiles également à vos fidèles lecteurs et tout. Donc, merci.
Tout le plaisir est pour nous. Alors, Madame Camara, quels sont les effets justement du retrait annoncé des États-Unis sur les financements climatiques destinés à l'Afrique?
Alors, ce retrait des États-Unis risque de créer un vide important dans les financements climatiques, en particulier pour des mécanismes tels que pour le Fonds vert, le climat, qui finance de nombreux projets en Afrique. Parce que ces pays africains, souvent parmi les plus vulnérables aux impacts du changement climatique, comptent sur ces financements pour des initiatives d'adaptation et tout ce qui est résilience climatique. La situation pourrait ralentir la mise en œuvre des projets stratégiques, mais aussi réduire la capacité des pays à répondre aux défis climatiques de manière proactive. Parce que, bon, nous tous nous savons que l'Afrique est responsable de juste 4% du changement climatique. Mmh. Et les États-Unis font partie de ces pays qui ont le plus contribué aux effets du changement climatique et tout. Donc, si après, ils se retirent dans ce mécanisme et tout de financement climatique, ça peut être un peu contraignant pour ces pays en développement qui espéraient avoir des financements provenant de ces pays afin de pouvoir mieux faire face au changement climatique. Donc, ça va créer un vide, ça va créer vraiment des choses qui ne sont pas du tout en notre faveur. Et nous espérons bien qu'il y aura peut-être des améliorations en ce sens.
Et justement, par rapport toujours à ces améliorations, comment aujourd'hui l'absence des États-Unis influencera-t-elle plutôt les projets d'adaptation au changement climatique en Afrique, selon vous?
Alors, nous avons constaté que tout ce qui est adaptation au changement climatique est déjà sous-financé par rapport à tout ce qui est atténuation. On parle plus de atténuation qu'adaptation climatique. Donc, malgré son importance cruciale pour l'Afrique, le retrait des États-Unis pourrait exacerber cette situation, mettant en péril des projets visant à renforcer la résilience des communautés face à la désertification, face à l'érosion côtière, aux inondations. Cependant, il est possible que d'autres acteurs internationaux, notamment l'Union européenne ou des pays comme le Canada, interviennent pour combler une partie de ce manque. Et voilà, donc nous sommes toujours dans cet espoir, disons, pour que les autres pays quand même puissent combler un peu ce manque.
Et concernant bien évidemment les impacts, quel impact aujourd'hui sur les investissements dans les énergies renouvelables en Afrique?
Alors, les énergies renouvelables représentent une opportunité pour l'Afrique de diversifier des sources d'énergie tout en réduisant ses émissions. Parce que maintenant, il y a le changement climatique qui se vit partout et on a cette technique, mais ce recours qui est recommandé de tourner vers tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est énergie verte. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité pour l'Afrique de diversifier un peu ses sources d'énergie et un peu, même si elle n'est pas responsable, comme on dit, des changements climatiques, mais comme c'est un continent qui subit le plus ces effets, donc au même titre que les pays que les pays développés qui sont peut-être aujourd'hui les acteurs carrément du changement climatique, nous devons aussi agir, nous devons aussi aller vers cette transition énergétique. Donc, avec le désengagement des États-Unis, les financements et la technologie qui soutiennent ces projets pourraient être réduits. Parce que aussi, c'est un coût. Le renouvelable a un coût. Les techniques de transition énergétique ont vraiment un coût. Donc, ça pourrait être réduit par ce désengagement des États-Unis. Et ça va ralentir la transition énergétique dans les pays qui en ont pourtant un besoin urgent, comme le Sénégal, comme voilà, ou les pays en développement actuellement. Cela dit, ce retrait pourrait également inciter les pays africains à explorer de nouvelles collaborations avec des partenaires émergents comme la Chine ou des investisseurs privés. Par exemple, la Chine, par exemple, est très, très, très engagée en termes de changement climatique parce qu'à chaque COP, par exemple, la Chine est présente et avec les réunions du G77 et tout, donc on voit pas mal d'engagement quand même venant de ces pays-là. Ce qu'on attend des États-Unis, bien sûr, mais bon, si on n'a pas les États-Unis, on pourra explorer de nouvelles collaborations, voire des autres partenaires émergents et qui sont prêts à financer cette transition énergétique.
Et concernant toujours, hein, par rapport à cette transition énergétique, aujourd'hui, le retrait des États-Unis risque-t-il de diminuer l'élan mondial pour le financement climatique, selon vous?
Malheureusement, oui, ça risque vraiment de diminuer l'élan mondial, parce que les États-Unis ont historiquement joué un rôle central dans les négociations climatiques internationales. Le retrait pourrait affaiblir la dynamique collective pour atteindre les objectifs de financement climatique, notamment l'objectif des 1 000 milliards de dollars annuels qui est fixé. Donc, nous avons vu cette année à Bakou, on s'attendait à 1 000 milliards, mais on n'a eu que 300 milliards. Peut-être si les États-Unis étaient engagés, ça allait peut-être hausser jusqu'à 500 ou 600 milliards au moins. Mais ce retrait des États-Unis pourrait davantage nous éloigner de cet objectif de financement climatique que nous avons. Donc, le retrait pourrait affaiblir la dynamique collective pour atteindre les objectifs. Et cela pourrait aussi encourager d'autres grands émetteurs ou contributeurs à ralentir leurs engagements, ce qui serait un signal négatif pour la communauté internationale. Parce que ça pourrait influencer justement les autres émetteurs, d'autres nations qui vont se dire, mais les États-Unis sont là. Ils sont des pays. Les États-Unis sont constitués de pays pollueurs, ils ont de grandes industries et tout. Ils ont eu à transformer vraiment des énergies fossiles depuis des années, depuis des lustres. Donc aujourd'hui, si les États-Unis décident vraiment de sortir de cet accord pour le climat, ça peut aussi influencer d'autres nations qui vont se dire maintenant on va aussi voilà, se retirer. Et ça pourrait être un signal vraiment négatif pour la communauté internationale et ça ne sera pas vraiment au profit des pays en développement. Ce sera vraiment malheureux, malheureusement, pour vraiment cet élan mondial pour le financement climatique. Ça ne va pas du tout donner un bon signal. Donc, nous espérons vraiment que des contournements pourront avoir lieu et que ça ne pourra pas peut-être influencer négativement ces autres pays-là sur qui nous. Voilà, sur qui nous nous basons justement actuellement.
Tout à fait. Et aujourd'hui, quel coût indirect ce retrait pourrait-il engendrer pour les économies africaines, à votre avis?
Alors, le premier coût indirect serait l'aggravation des impacts climatiques, comme l'espèce, qui affecte directement les secteurs clés comme l'agriculture. Donc ça, c'est vraiment un premier coût. Ça va aggraver tout ce qui est sécheresse. Également, cela pourrait entraîner des pertes de revenus pour les agriculteurs. Une hausse des prix tout ce qui est denrées alimentaires et inévitablement une augmentation de l'insécurité alimentaire. On sait que quand on parle de pays en développement, les premiers signes d'un pays en développement ou bien d'un pays qui est sous-développé, vraiment, c'est vraiment la famine. Il y a vraiment cet objectif qui est ODD2, lutte contre la faim. Je pense que plusieurs pays africains partagent même ce même objectif qui fait partie des objectifs phares. Donc, si aujourd'hui, il y a des coûts indirects que ce retrait pourra vraiment faire découler ou bien provoquer, on peut parler de cette insécurité alimentaire qui va découler justement de la diminution des rendements, découler de la sécheresse et tout ça, et l'augmentation des prix de tout ce qui est denrées alimentaires. Et ça va vraiment être délicat pour les pays déjà qui avaient du mal à assurer leur sécurité alimentaire, qui après font face à d'autres problèmes qui vont aggraver un peu cette insécurité. Ça va vraiment être. Vraiment être délicat. Donc, sur le long terme aussi, il y aura l'absence d'infrastructures résilientes qui pourraient également limiter la croissance économique et accroître la dépendance des pays africains aux aides d'urgence. Donc, si on avait peut-être les moyens de bâtir nos propres infrastructures résilientes pour le changement climatique, on pourra davantage être, je peux dire, tendre vers cette indépendance. Donc, on pourra prétendre bâtir notre propre avenir, on pourra avoir cette résilience climatique justement, mais si aujourd'hui on n'a pas cette capacité de bâtir nos propres infrastructures, d'avoir des limites dans tout ce qui est financement climatique, ça pourra accroître un peu cette dépendance, voilà, que nous avons vis-à-vis de ces aides d'urgence des pays développés.
Et comment ce retrait d'ailleurs annoncé pourrait-il influencer aussi les engagements des pays africains dans la lutte contre le changement climatique, qui pour vous, bien évidemment, et votre structure est un sacerdoce?
Alors, les pays africains pourraient être contraints de revoir à la baisse leurs ambitions climatiques en raison du manque de moyens financiers pour mettre en œuvre leur CDN, ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national, puisque chaque pays actuellement qui est signataire de l'accord de Paris, justement, va mettre en place ce qu'on appelle ses CDN, c'est-à-dire annuellement ou bien par 4 ans, ça dépend de la durée que le pays se fixe, doit mettre en place ce qu'on appelle ses CDN, montrer comment le pays s'engage à réduire justement ses émissions. Mais cette réduction d'émissions de carbone, comme j'ai dit tantôt, a un coût, parce qu'on ne peut pas se lever un bon matin, comme nous avons l'ambition de transiter vers les énergies vertes, mais sans moyens, c'est impossible. Donc aujourd'hui même, le but de la création de notre club, justement, c'est d'être un peu ce pont entre ces bailleurs, ces agences de développement et également nos populations africaines sénégalaises. Aujourd'hui, comme on voit dans pas mal de pays africains, c'est que les femmes, pour assurer un peu cette transformation de leurs produits, mais si elles n'ont pas d'énergie verte, si elles n'ont pas d'énergie solaire, etc., elles vont aller dans les champs couper les bois pour un peu assurer d'avoir un peu cette fumée qui va leur permettre de transformer leurs produits. Si aujourd'hui on avait ce financement pour justement assurer cette transition énergétique, les initier aux technologies propres, les donner les moyens, voilà, d'avoir, de faire recours aux autres énergies, ça pourrait un peu faciliter l'atteinte des CDN des pays. Parce que si on laisse la coupe de bois, si on laisse vraiment tout ce qui est énergie fossile, disons, et transite vers les autres énergies, on pourra un peu hausser notre niveau en termes de tout ce qui est CDM et se dire que, par exemple, on a des pourcentages qu'on a gagnés davantage. Et ça a été facilité justement par ce financement climatique que nous avons obtenu. Donc, cependant, moi, je reste optimiste quand même. Je reste optimiste et je me dis que je m'engage pour le climat, et voilà, depuis des années, j'y suis et tout. Donc, même si aujourd'hui, il y a les États-Unis qui se retirent, peut-être que ce n'est pas la fin du monde, même si on allait vraiment attendre énormément de choses provenant d'eux, parce que c'est une puissance mondiale, c'est un pays qui peut vraiment faire beaucoup de choses. Mais quand même, si on n'a pas, moi, je reste optimiste pour vraiment que retrait également, voilà, pourrait également motiver les pays africains à se tourner davantage vers des solutions locales. Donc, pensez vraiment à se démarquer, se dire que même si on n'a pas les moyens, on peut vraiment réfléchir à de nouvelles options, pourquoi pas. Donc je pense que ça aussi, ce serait une perspective à renforcer la coopération régionale, se dire que mais on est tous des pays africains, on est tous pauvres, oui, et peut-être si on se renforce,
Tout à fait.
et voilà, ça pourra aider à notre résilience et on pourra même être beaucoup plus puissant que les États-Unis, qui sait. Donc, je pense que ça pourra attirer même de nouveaux partenariats. Pourquoi pas? On se dit Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal et tout. On a fait un bloc. On s'est dit que voilà, on va essayer de voir comment on va mettre en place des plans régionaux, des plans voilà, africains pour qu'on puisse vraiment faire face aux États-Unis qui, justement, refusent de financer. Donc, cela pourrait être une opportunité hein, pour mettre davantage l'accent sur des approches intégrées, comme les solutions basées sur la nature, également de voir localement qu'est-ce qu'on pourra faire, là, selon je peux dire, ce que la nature met à notre disposition de façon naturelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour localement développer des solutions de résilience, là, pour ne pas justement tout le temps se baser sur les États-Unis.
Et pour cela, bien évidemment, nous pourrions compter, bien évidemment, il faudra aussi compter sur le premier réseau de femmes africaines unies pour l'action climatique, dont vous, Madame Fanta Camara, environnementaliste également et négociatrice du climat, et la présidente du Climate Linger Club. Merci encore, Madame Camara, pour cette intervention assez pertinente. Comme toujours, les femmes le sont dans l'univers également du monde, mais aussi de la lutte contre le changement climatique.
Merci beaucoup, tout le plaisir est pour moi.
Et merci également à vous, chers amis, pour la durabilité de votre confiance renouvelée à cette émission sur la durabilité. Aujourd'hui, il était question de parler de la problématique et de l'impact de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Et nous avons eu le plaisir de recevoir une Linger parmi les Linger, Fanta Camara. Merci encore.
Je vous en prie.
À très bientôt également à vous, chers amis auditeurs et passionnés dans la durabilité de votre confiance renouvelée à cette émission destinée à promouvoir et aussi à faire comprendre cette économie durable, la durabilité, le développement durable de manière générale. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Au plaisir.